Hypersensible la fiction, aujourd'hui, premier épisode de notre nouvelle série à la poursuite d'Amanda Knox. Une fiction écrite par Charles Gattaz, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. L'affaire Amanda Knox, autopsie d'un fait divers made in Erasmus. Cette version dramatique de l'auberge espagnole se déroule lors d'un échange universitaire à Perugia, en Italie. Pérouse, comme disent les Français. Dans les rôles principaux, l'anglaise Meredith Kercher et surtout l'américaine Amanda Knox. Des colocs d'à peine 20 ans qui découvrent la Dolce Vita version Perugia, Spritz en apéreur, quelques joints, des garçons aussi. Ainsi jeunesse se passe dans l'euphorie et dans l'insouciance jusqu'à cette nuit macabre du 1er novembre 2007. Meredith est retrouvée égorgée. La comédie pour teenagers tourne au film d'horreur. Du sang, mais aussi un peu de sexe et surtout des jolies filles, la presse à scandale s'empare immédiatement d'affaires, qui deviendra bientôt un véritable feuilleton judiciaire. Tueries sataniques, rituels vaudou, les gros titres s'en donnent à cœur joie. Amanda Knox devient alors la diabolique. Mais au fait, est-elle coupable ou innocente? Si la justice a fait son choix en 2015, très controversé, le web, lui, entretient le débat. Un engouement macabre qui interroge et qui dérange aussi. Pourquoi ce fait divers? Pourquoi les faits divers de sang nous passionnent-ils autant et nous questionnent-ils autant? Notre invité aujourd'hui, Éric Valmire, secrétaire général de la formation à Radio France et journaliste correspondant permanent Rome au moment des faits.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
À la poursuite d'Amanda Knox, une série de Charif Gattaz, réalisation Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Premier épisode, Chaos debout.
Pérouse, centre de l'Italie. 1er novembre 2007, la nuit de la Toussaint. Après un dîner entre amis, l'étudiante anglaise Meredith Kercher, 21 ans, rentre en compagnie de l'une d'entre elles. À 20h45, sur le bord de la route, les deux étudiantes se séparent. C'est la dernière fois que Meredith Kercher a été vue vivante.
Telegiornale dell'Umbria che apre con una notizia luttuosa. Meredith Kercher, 22 anni, di nazionalità inglese, l'hanno trovata morta nella sua abitazione di Via della Pergola. Tutti gli elementi finora emersi.
Jusqu'à cette nuit du 2 novembre 2007, ma vie ressemblait à un film plutôt léger et sympa. Comparé à d'autres existences, je peux même considérer qu'il s'agit d'un conte de fées. Une traversée idéale, une promenade de santé. C'est vrai, à 21 ans, je suis jeune, des projets plein la tête, j'ai une famille aimante et chaleureuse. Chez moi, à Seattle, les garçons me trouvent mignonne. Un brin faux garçon manqué, mais attirante quand même. Le genre de fille avec qui c'est cool de boire des coups les soirs de match. Et alors à Pérouse, en Italie, je suis carrément promue comme étant la belle blonde américaine. Bien roulée. Pétillante et mystérieuse. Le top, le haut du panier. Encore un peu et je deviendrai presque un fantasme. Une femme trophée. Un trophée, moi. La blague. Comme tout le monde, il m'arrive de pas être contente. Contrariée, énervée. Révoltée. Triste. Mais qui peut se vanter de voguer sur un long fleuve tranquille 365 jours par an? Personne, je crois. Ça n'existe pas. C'est dans les rêves. On a tous nos emmerdes, nos moments de flottement. Mais moi, pour relativiser, je me dis toujours qu'il y a des gens qui en baffent pour de vrai dans ce bas monde. Il faut s'en souvenir. Question de principe. En tout cas, c'était ma philosophie jusqu'à ce soir-là. J'ai rencontré Meredith Kercher en arrivant à Pérouse. C'était en septembre 2007, il y a quelques semaines donc. D'abord simple colocataire. On s'était vite apprivoisés, Meredith et moi, pour devenir de bonnes copines. Pas les meilleures amies du monde, c'était beaucoup trop tôt. Et puis on est assez différentes toutes les deux. Elle a un profil très anglais, bon chic, bon genre. Tout en retenue, mais souriante et radieuse naturellement. Tandis que je suis plus extravertie, plus expansive, plus foutraque aussi. Mais qu'importe. On aimait passer du temps ensemble, à parler notre langue natale. Faire du shopping, se balader dans les vieilles ruelles de Pérouse, manger des pizzas, en parlant soirée, fringues, mec, et de ce qu'on ferait plus tard après nos études en Italie.
À table.
Mais il n'y aura pas de plus tard pour Meredith. Elle est morte assassinée chez nous. Chez nous. Dans notre maison. Au 7 rue Pergola, à Pérouse. On lui a tranché la gorge.
Oh, Amanda? Ça va?
Oui, excuse-moi.
J'ai préparé à manger.
Super.
T'as pas faim?
Moi? Bah, tu plaisantes. Je suis affamée, je boufferai le cul d'une vache.
Le cul d'une vache?
Mmh. Laisse tomber. Ça veut dire que je crève la dalle.
Bah écoute, ça tombe bien, j'ai préparé des pâtes.
Merci. Ça sent bon?
Tiens, le parmesan.
Merci.
Arrête. Tu dis merci tout le temps.
Ah bon?
Mais oui, depuis le matin du meurtre, t'arrêtes pas de me remercier, pour tout. Dès que je fais un truc. Sauf que j'ai rien fait de spécial.
Si, Raphaël. Au contraire. T'es doux, protecteur, gentil. Donc merci. Pour ça.
C'est tout.
Et tu embrasses pas trop mal aussi.
Mmh. Et quoi encore?
Tu pues le fromage râpé. T'es content?
Et pas autant que toi. Et quoi encore?
Et j'aime bien quand tu caresses mes seins et mon ventre avant de...
Avant de quoi? Comme ça?
Oui, comme ça. Avant de me prendre et de me faire l'amour.
Viens. Oh merde!
Vas-y, réponds.
Mais viens, on s'en fout.
Mais non, on s'en fout pas. L'agent Ficarra et le procureur Minini ont dit qu'on devait rester joignables. Ils ont été très clairs, tu réponds.
Oui. Oui, oui, je suis chez moi. Rien, on est en train de dîner. Quoi? Là, maintenant? Au commissariat? Mais ça peut pas attendre demain? Il est 10h du soir.
Et demi.
Oui, 10h30. Je comprends. Non, ok, j'arrive. Oui, oui, j'arrive tout de suite.
J'ai accompagné Raffaele jusqu'à la Questura, le quartier général de la police de Pérouse. On m'a donné une chaise. On m'a dit d'attendre dans ce couloir pendant son interrogatoire. Cette odeur, un mélange de café, de tabac froid et de sueur, me file une de ces nausées. Le 2 novembre, après la découverte du corps de Meredith, la police nous a déjà interrogés, Raphaël et moi. J'ai dit tout ce que je savais. Que j'avais vu Meredith la veille dans l'après-midi, qu'ensuite j'avais passé la soirée avec Raphaël, puis qu'au matin je l'avais quitté pour rentrer chez moi à pied. J'ai vu que ma porte était ouverte, mais ça m'a pas alerté. Les parties communes de l'appartement étaient comme d'habitude, et ma chambre, bordélique comme d'habitude. En sortant de ma douche, j'ai remarqué une tache de sang sur le tapis de bain. Rien d'inquiétant, j'ai pensé. Quelqu'un s'est peut-être blessé, ou peut-être qu'une des colocs a ses règles. Bref, c'est quand je me suis aperçue que quelqu'un avait chié et n'avait pas pris la peine de tirer la chasse d'eau que je me suis dit « quelque chose tourne pas rond ici ». Et je suis partie immédiatement pour en parler à Raffaele.
Amanda est arrivée un peu paniquée, alors je lui ai dit « Viens, on y retourne ensemble ». Ce qu'on a fait. La maison à l'étage était assez en désordre. Un peu étrange. Et plus étrange encore, le fait qu'Amanda se soit déshabillée pour prendre une douche, malgré les excréments dans les toilettes, le sang sur le tapis de bain et la pagaille dans la maison. Après, on a essayé d'ouvrir les portes des chambres pour voir qui était là et qui n'y était pas. La porte de Meredith était fermée à clé. Amanda a appelé. « Meredith, Meredith, t'es là ?» Mais rien, pas de réponse. Alors j'ai appelé plus fort, et Amanda aussi. « Meredith, ouvre ! Tu dors ? Meredith !» J'ai essayé de forcer la porte, mais je suis pas parvenu. Alors j'ai appelé la police.
Vendredi 2 novembre, 12h51. La police de Pérouse reçoit l'appel de Raffaele Sollecito.
Et là, tout a été si vite. Après avoir défoncé la porte de la chambre de Meredith et découvert le corps, ils nous ont ordonné de sortir à l'extérieur dans le jardin. Ils se sont mis à crier. Il y a un corps ici, étendu par terre, dans la chambre. Il y a du sang, la fille à la gorge tranchée. On entendait les voix, sidérées. Un peu plus tard, ils sont venus nous chercher dehors pour nous conduire à l'intérieur de la maison, là où... Dans la chambre de Meredith. Mon Dieu. Il y avait du sang. Du sang partout. Absolument partout. Sur le sol et sur les murs. La vision de l'horreur. Un chef-d'œuvre du cauchemar parfait et absolu. Le corps meurtri de Meredith recouvert d'une couverture en laine et ses pieds apparents, étrangement encore tendus et immobiles. La police nous a ballottés comme ça, de la chambre à la salle de bain, puis au salon, dans un brouhaha de voix et un va-et-vient incessant d'agents et d'experts. Et tout ça, cette agitation, cette cohue, donnait un sentiment de vertige. L'impression d'une confusion totale qui avait fini par me gagner, moi aussi.
Qu'est-ce que vous faites là, vous ?
J'attends que Raffaele finisse d'être entendu.
Sollecito ?
C'est ça.
Eh ben, vous allez attendre longtemps.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que mes collègues sont loin d'en avoir fini avec votre petit copain, Mademoiselle Knox.
Ah ? Qu'est-ce que je fais alors ?
Elle m'a considéré des pieds à la tête avec un air supérieur peu rassurant.
Puisque vous êtes là, on peut vous interroger aussi ?
Bien sûr, mais j'ai rien de plus à vous dire.
Au regard noir que m'a lancé l'inspectrice Rita Figuera, j'ai compris que je n'étais pas, ou plus, vue uniquement comme la témoin privilégiée de cette histoire. Une personne proche de la victime, par conséquent susceptible de faire avancer l'enquête, d'aider la police en somme. Mais peut-être qu'on commençait à m'envisager comme une possible suspecte. Suspecte, moi. Mais à quel titre ? Cette idée m'a glacée.
C'est ce que nous allons voir. Suivez-moi dans mon bureau.
Impossible. Quel idiot je fais. J'ai préféré balayer cette éventualité de mon esprit, la chasser carrément de ma cervelle.
Asseyez-vous là en face de moi. Le jour du meurtre, quand je vous ai interrogé, vous m'avez menti.
Je crois pas avoir menti, madame.
Si. Vous ne savez pas quand ?
Est-ce que je pourrais comprendre pourquoi je suis là et pourquoi vous me fixez aussi sévèrement ?
Ne vous braquez pas. Répondez simplement à ma question, mademoiselle.
Menti sur quoi ? À quel sujet ?
Au sujet de la drogue. Vous avez déclaré ne pas prendre de drogue, ne pas fumer de marijuana. Pourquoi ?
Je sais pas.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui ? Eh ben, je regrette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis désolée si j'ai menti. Je voulais pas que la police croie que moi ou Meredith étions des fumeuses de joint.
Mais c'est pourtant ce que vous êtes, des consommatrices d'herbes.
On s'échange un joint comme ça, mais on n'en achète jamais. Fumer un joint de temps en temps ne fait pas de moi une consommatrice.
Vous appelez ça comment ?
Je n'ai jamais acheté d'herbe de ma vie entière, je vous le jure. Ni moi, ni Meredith.
Vous jurez ? Mais comment je peux vous croire, puisque vous êtes une menteuse ? Pourquoi je vous croirais ?
Elle me fait chier, cette salope. Avec son putain de regard noir. Elle me fout les boules. Pourquoi elle croit que je mens ? J'ai envie de me lever et de me tirer d'ici.
Peut-être que... vous avez l'impression que ce qui se joue ici, entre ces murs, n'est pas particulièrement grave. Pas particulièrement important.
Mais si, bien sûr que si.
Pourquoi vous embrassiez votre petite amie dans le jardin le matin du meurtre ?
Je sais pas. Pour se réconforter.
C'est inapproprié.
Sans doute. Mais on avait besoin de se soutenir, alors...
Oui, Roberto, Figuera à l'appareil. Faites venir une interprète pour Knox, ça risque de durer.
De durer ? Mais pour quelle raison ? Je suis fatiguée.
J'ai encore besoin de vous entendre au sujet du meurtre de Meredith Kercher.
Mais vous m'avez déjà posé des questions, c'est une blague là ! J'ai déjà tout dit ! En plus, ma mère doit arriver à Pérouse tout à l'heure. Et je vous ai déjà...
Tout dit, oui, oui.
Mais oui !
J'ai compris. Quand avez-vous vu Meredith Kercher ? Pour la dernière fois.
C'est pas vrai, vous vous foutez de moi.
Je te conseille de surveiller tes paroles, jeune fille.
Vous me tutoyez maintenant ?
Quand as-tu vu Meredith pour la dernière fois ?
Le jour précédant sa mort, autour de 16 heures. Elle m'a dit qu'elle sortait avec des copines et qu'elle passerait la soirée dehors. Et voilà, on s'est salués et Meredith est partie. Et c'est tout. Je peux y aller maintenant.
Pourquoi t'es pas sortie avec elle ?
Parce que j'ai rencontré Raffaele, le type qui se fait harceler par vos collègues dans le bureau d'à côté, il y a une semaine environ, et on se quitte presque jamais, lui et moi, sauf pour aller à la fac.
En plus, là, c'est les vacances. Alors, c'est vrai, on est tout le temps fourré chez lui. Et ce soir-là aussi, on est resté dans son studio. On a passé la soirée chez lui. Et puis, Meredith et moi, on faisait des trucs ensemble, mais... elle avait ses copines anglaises qu'elle avait l'habitude de voir seule le plus souvent.
Qu'est-ce que vous avez fait chez Raffaele ?
Rien de spécial. On a regardé le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Jouer de la guitare, fumer un joint, justement. Dîner, et puis... on s'est couché.
Ficarra, j'écoute. C'est bien. Continue à le travailler. T'as dormi chez Sollecito le soir du meurtre ?
Je viens de vous le dire.
Tu n'es pas sortie.
Bah non ! Pourquoi je serais sortie ?
Tu as ton téléphone portable ?
Oui.
Donne-le-moi, je te prie.
Pourquoi faire ? Ma mère arrive de Seattle cette nuit, elle doit être dans le train à cette heure-ci, il faut que je puisse lui répondre.
Ferme-la, Nox.
Vous êtes folle, en fait.
Reste tranquille. Et surveille tes paroles.
Ok, putain. Non, regardez dans mon téléphone si ça vous chante. Regardez mes textos, vous allez voir, j'ai pas été travailler ce soir-là.
Il y avait tellement peu de cours à la fac pour les étudiants étrangers que je m'étais décidée à trouver un boulot de serveuse à temps partiel dans un bar du centre de Pérouse. J'étais tombée sur Patrick Lumumba, propriétaire du Chic, qui m'avait engagée en pensant qu'une jolie silhouette d'américaine attirerait le client.
Vous voyez ? Mon patron m'a envoyé un message en me disant qu'il n'avait pas besoin de moi pour la soirée.
Mmh. Et tu lui as répondu quoi ?
Ok, on se voit plus tard, see you later, bonne nuit, un truc comme ça.
Et tu l'as vu ?
Comment ?
Je lis ton message... Ton message de réponse, dis-moi si je me trompe, mais il y a écrit « On se voit plus tard, bonne nuit ».
Oui, à plus quoi.
À plus.
Oui, à plus, à plus tard. See you later, c'est ce que ça veut dire, non ?
Mais ça peut aussi vouloir dire que tu l'as retrouvé plus tard, comme ton texto le laisse supposer.
Mais pas du tout. Vous racontez n'importe quoi, pourquoi voulez-vous que je sois partie de chez Raffaele ? C'est une expression, ben, vous la connaissez, tout le monde la connaît, see you later, à plus tard. C'est quoi le problème ? Putain, mais c'est quoi ce délire ?
Calme-toi, Amanda. Calme-toi immédiatement, c'est un avertissement. Un avertissement amical. Et arrête de me raconter des conneries parce que ça me met en colère. Moi aussi, je suis fatiguée, tu sais. Moi aussi, je voudrais bien rentrer chez moi et me reposer un peu. Mais tu essaies de me balader et ça a le don de me faire perdre patience. Tu vois ce que je veux dire ? On fait notre travail. C'est pas une petite américaine hystérique qui va nous impressionner, tu m'as compris ?
Oui. Mais... Je sais pas, madame, je suis paumée, je sais plus où j'en suis, d'accord ? Vous m'embrouillez l'esprit. Je suis fatiguée, ça fait 3 jours que je dors à peine, et là, vous me mettez la pression.
Je te mets pas la pression. Je fais mon travail. Si tu ressens de la pression, c'est parce que tu sais que tu dis pas toute la vérité.
Je vais exploser. Je vais me jeter contre les murs. J'ai chaud. Je brûle de l'intérieur.
J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je peux ?
Non. Allez, on reprend. Tu es sortie retrouver ton patron Patrick Lumumba ce soir-là, n'est-ce pas ? Et tu l'as retrouvé où précisément ?
Je n'ai pas retrouvé Patrick.
Ficarra, j'écoute. Intéressant. Gardez-le au chaud, j'arrive.
Récupérer mon téléphone.
C'est une pièce à conviction à présent. Tu le récupéreras à la fin de l'enquête si tout va bien.
Si tout va bien.
Si tu coopères, Amanda.
Mais j'essaye de coopérer, mais vous ne me croyez pas.
Parce que t'es une sale petite menteuse. Et que j'aime pas ça. D'abord, tu mens pour la drogue. Ensuite, tu reviens sur ta déclaration. Et puis tu dis que tu n'as pas quitté ton petit ami le soir du meurtre de Meredith Kercher.
Mais c'est la vérité.
T'aimes te foutre de la gueule de la police, hein? Ton petit ami Raphaël vient de te trahir, là, à l'instant.
Comment ça?
Il dit que tu n'arrivais chez lui qu'à 1h du matin. 1h du matin, c'est pas un peu tard pour dîner et s'envoyer en l'air en regardant un film, tu crois pas? Je t'ai fait mal. Ah, excuse-moi. C'est parti tout seul. Tu sais, j'ai rien contre toi, moi. Mais si tu veux t'en sortir, il faut que tu nous aides, Amanda.
Mais pourquoi Raphaël a menti?
Il dit que c'est toi, que tu lui as demandé de nous mentir, de nous cacher la vérité, de te protéger en inventant un alibi, en n'avouant pas que tu arrivais tard, à 1h du matin, dans son studio. Tu étais avec qui avant 1h du matin? Avec qui tu as passé cette soirée, si ce n'est pas avec Patrick Lumumba, à qui tu as pris soin de répondre pour lui dire que tu le retrouverais plus tard? C'est bien ce que tu as écrit, non?
Oui, je sais pas.
Est-ce que tu crois que Patrick a pu tuer Meredith Kercher?
J'en sais rien.
Est-ce que cette éventualité te semble plausible?
Oui, je sais pas. Vous foutez les boules, d'accord? J'ai peur, là. J'ai peur de vous. Et je veux rentrer chez moi, maintenant.
C'est impossible, Amanda. Tu dois d'abord nous dire ce qui s'est passé ce soir-là. Cette nuit-là. La nuit où ton amie Meredith a été sauvagement assassinée.
Mais j'en sais rien. J'en peux plus. Je me rappelle pas. J'étais chez Raphaël toute la soirée. Je jure que j'étais...
Mais rappelle-toi, fais des efforts. T'es dans la merde, Amanda. Alors, soit t'es avec nous, soit tu es avec le meurtrier.
Je comprends pas.
Raphaël t'a laissé tomber, Amanda. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes maintenant et que tu dises ce que tu sais. Tout ce que tu sais à propos de cette nuit du 2 novembre et de Patrick Lumumba que tu as été retrouvé, ok?
Je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je confonds. À ce moment-là, je ne sais plus distinguer le vrai du faux. Le rêve de la réalité. Est-ce que j'ai vu Patrick ce soir-là? Il portait son blouson en cuir marron. Je l'ai vu? Ouais, c'est possible. Mais je m'en souviens pas. Je crois que j'étais chez Raffaele toute la nuit. Je l'ai dit. Mais je me trompe. C'est possible. Où est l'interprète? Personne n'est venu. Est-ce que j'ai bien tout compris? Depuis la mort de Meredith, je dors presque pas. J'ai peur de rester seule. Je suis collée à Raffaele. Je suis folle, peut-être. J'entends Meredith crier, hurler, dans la nuit. Et Patrick est là. Il est là, lui.
Est-ce que tu crois que Patrick est le meurtrier de Meredith?
C'est possible.
Tu le penses?
Oui.
Ficarra au téléphone. Envoyez immédiatement une unité chez Patrick Lumumba et procédez à son arrestation. C'est un ordre.
Un agent m'a tendu une feuille.
C'est ta déposition. Signe en bas de la page, je te prie.
Et moi, ne sachant quoi penser, j'ai signé la déposition.
6 novembre 2007. Au terme d'un interrogatoire de près de 14 heures, Amanda Knox signe une première version des faits.
Tout de suite après, un policier est entré suivi du procureur chargé de l'enquête. Le procureur Minini, que j'avais aperçu à la maison le lendemain du meurtre. Le policier m'a mis des menottes et on m'a dit...
Amanda Knox, vous êtes en état d'arrestation.
À la poursuite d'Amanda Knox, une série de Sharif Gattaz. Premier épisode, Chaos debout. avec Cassandre Vitu de Keraoul, Henri-David Cohen, Marie Bouvier et Olivier Clavery. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Anissa Zinna. Réalisation, Cédric Ossir.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Let me let go.
Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults, more relief, more push. More new, more new. Left hills, understand how to earn. And you taught me how to earn, so I can't forget you. Travel land, mind, rubber land. Let the trunk rattle down, what's true to you, what's real. This is still, all the watch from cars. Sitting on top of your car, we don't know.
More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Bonjour Éric Valmeir.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes secrétaire général de la formation à Radio France et vous étiez journaliste correspondant permanent à Rome au moment des faits. Vous allez donc nous éclairer sur ce fait divers dont nous racontons l'histoire avec cette série de fiction en 4 épisodes jusqu'au mercredi 9 février, donc mercredi prochain. Alors il est emblématique ce fait divers en ce qui révèle les passions humaines et les erreurs ou obsessions de la justice et des surenchères de la presse également qui exacerbent les réactions, les haines, les mensonges. Et tout est en place pour que cette histoire terrible dérive. Et d'ailleurs, très vite, le nom de la victime, Meredith Kercher, étudiante anglaise, sera oublié au profit de celui de sa colocataire, Amanda Knox, qu'on appellera très vite la diabolique. Vous vous souvenez du début de l'affaire Amanda Knox et de l'emballement qui a suivi ?
Ah, l'emballement, il n'est pas immédiat. Hein. Au départ, c'est une jeune femme anglaise qui est retrouvée morte dans sa coloc. Tout a l'air d'être un crime sordide, un crime sexuel, et c'est un fait divers comme beaucoup d'autres. Moi-même, à Radio France, on va pas se passionner pour les faits divers qui sont italo-italiens, même si c'est une Anglaise qui a été tuée, et je fais pas de sujet là-dessus. D'abord, ça n'intéresse pas les rédactions de Radio France, et moi, je vois ça dans les colonnes faits divers, et on attend un peu. Et puis, c'est petit à petit, où on s'aperçoit que les Italiens commencent à s'y intéresser parce que tout est en place pour un scénario fait d'incohérences. On commence à patauger très vite dans quelque chose de bizarre et tout le monde se passionne d'un seul coup pour ça. Pourquoi ? Pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que tout est réuni pour quelque chose un peu glauque, certes, mais qui va passionner les foules, c'est-à-dire des jeunes entre eux qui commettent l'irréparable ou pas. Finalement, a-t-elle tué ? N'a-t-elle pas tué ? Et au bout d'un moment, vous savez ce que ça me rappelle au bout d'un moment ?
Non.
Ça vous dit rien, cette presse qui s'empare de tout, des fuites de dossiers, de Grégory.
Oui, ça peut nous renvoyer à plusieurs affaires, notamment celle-là.
Celle-là, pourquoi ? Parce que tout le monde s'en mêle. Que d'un seul coup, on a des trucs... Alors, un coup, Amanda Knox va accuser le patron du bar où elle bosse. Mmh. Elle va dire, c'est lui qui l'a tué, j'étais avec lui. Et puis, après coup, elle va se rétracter en disant, les flics m'ont tabassé, c'est pour ça que j'ai avoué, ils m'ont torturé. Après, il y a les uns et les autres qui s'accusent. Le garçon, le fiancé, qui va dire « Ah non, mais finalement, elle n'était pas chez moi. » Parce que l'alibi d'Amanda consiste à dire qu'elle a passé la nuit chez son fiancé, à l'autre bout de la ville, et non pas sur les lieux du crime. Les lieux du crime, il n'y aurait personne, il n'y aurait que Meredith. Et finalement, on s'y perd littéralement. Et tout le monde s'en mêle. Quand je dis que tout le monde s'en mêle, c'est la presse. Il va y avoir des fuites de dossiers absolument hallucinants. Tout le monde va sur Internet, ce qui n'existait pas à l'époque de Grégory, mais là, tout le monde va sur Internet pour aller voir les profils d'Amanda, et tout le monde ressort des choses qui sont sur Internet, mais qui n'ont aucune valeur quand vous n'êtes pas mêlé à une affaire comme celle-là. Ouais. Je pense à Amanda qui va être filmée complètement saoule dans une soirée, mais complètement ivre morte, et qui est là, qui touche des garçons, qui rigole, qui boit, enfin qui touche des garçons, qui les effleure, hein, il n'y a pas d'acte sexuel. Et d'un seul coup, ça devient une vidéo à charge. Alors que c'est une fête entre amis. C'est de la dépravée. Il va y avoir une photo d'elle qui est avec une fausse Kalachnikov qui fait semblant de tirer. Elle est là aussi dans une fête. C'est assez intéressant, pas d'ailleurs, pour tout ce qui est mis en ligne par les jeunes dans des moments comme ça de fête ou de parodie ou de quoi que ce soit, parce que ça peut se retourner contre vous. Tout comme le jeune garçon Raffaele qui est entouré de papier toilette avec un faux couteau. Et la victime a été tuée par un couteau. Et c'est une photo qu'on retrouve. La presse exhibe tout ça. Tout le monde s'en mêle. Il y a des ADN partout. Un coup, on vous dit, il y a l'ADN d'Amanda sur le manche d'un couteau qui a été retrouvé chez Raffaele. Et sur la lame du couteau, il y a l'ADN de Meredith. Donc forcément, elle est coupable.
Bah oui.
Il y a l'agrafe de soutien-gorge de la victime. Ouais. On retrouve l'ADN de Raffaele, le copain d'Amanda, dessus. Donc, il est coupable. Ce qui veut dire que, en première instance, ils sont condamnés tous les deux coupables à 24 et 26 ans de prison. Ils vont faire 4 ans chacun. Et à partir de là, deuxième emballement, les Américains, qu'on n'avait pas entendus jusque-là, se réveillent. Et les Américains, ce sont les chaînes de télévision qui s'en mêlent, qui engagent des détectives privés, des anciens du FBI, qui vont pilonner la justice italienne en disant qu'elle est nulle, qu'elle est passée à côté, que c'est n'importe quoi qui va reprendre toute la procédure. L'agence de com recrutée par la famille qui est là également pour enquêter. Et encore une fois, tout le monde s'en mêle. Et alors il n'est plus question de savoir qui a tué ou qui n'a pas tué. Il est question de savoir qui est cette Amanda. Si elle est diabolique, la machiavélique qui se fait passer pour une innocente, ou si elle est réellement innocente. Et tous les débats vont se cristalliser autour de ça.
Est-ce que le cadre compte Perugia, ville étudiante, Erasmus, est-ce que ça compte ou pas ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout, parce que là, on est vraiment dans le profil psychologique. Et puis surtout sur des intérêts croisés. C'est-à-dire qu'en gros, les Italiens se sentent absolument ulcérés d'être ainsi attaqués, comme s'ils n'étaient pas capables d'avoir une justice qui fonctionne et une police qui fonctionne. Bien sûr. Parce que c'est ce que font les chaînes américaines. Il y a un assaut littéralement de la presse américano-anglaise. On dit international, c'est faux. C'est les Américains et les Anglais. Et les Italiens. Les Français, pardon, vous avez entendu parler de ça entre 2007 et 2010, je veux dire, on n'a quasiment pas parlé.
Il n'y a pas de Français, c'est pas une raison, mais il n'y a pas de Français dans l'histoire. Ouais, alors qu'il y a une Anglaise, une Américaine et des Italiens.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que même moi, au bout d'un moment, je me suis bien gardé d'intervenir là-dedans ou de le proposer aux rédactions de Radio France.
Pour ces raisons-là.
Mais parce qu'on n'y comprenait rien. De quoi parle-t-on ? On parle de gens qui disent des choses, qui disent le contraire, mais les ont-ils vraiment dites ?
Mais oui.
Les ont-ils vraiment prononcés ? C'est où ? Ça sort d'où ? La fuite d'un dossier judiciaire. Amanda a écrit ça en prison. Regardez, on a le papier. Ah oui, mais vous êtes sûr ? C'est authentifié ? Ah non, on ne sait pas. Mais c'est pas grave, on publie. Puis regardez, il y a ça sur Internet. On est mais arrosé de tous les côtés, on ne sait pas qui dit la vérité. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, on a le Rudy Guédé, le l'Ivoirien, qui était donc celui qui était soi-disant dans la pièce, qui va faire, je crois, 14 à 16 ans de prison.
Condamné aussi, oui,
il a été condamné, ouais. Mais il a été condamné à part. C'est-à-dire que son procès n'a pas eu lieu en même temps que les deux autres. Parce que son avocat ne voulait pas, justement, qu'il soit associé. Mais finalement, dans tout ça, ce qui est troublant, c'est qu'on en oublie le sujet principal. Qui a tué Meredith?
Bien sûr.
Si c'est pas Amanda. Et si ce n'est pas Rudy, puisque Rudy, il est même pas, il fait pas une condamnation pour meurtre. Il fait une condamnation pour complicité de meurtre. Donc il l'a pas tué. Qui a tué Meredith? Ben, on a l'impression que tout le monde s'en fout. À la fin, non mais c'est vrai. On est surtout sur les pros ou les anti-Amanda. Tout va être autour de ça.
Alors en revanche, en Italie, ça mobilise. Alors, en France,
ah oui.
Alors, de quelle nature le débat? Les politiques s'en mêlent? Comment ça se passe?
Très peu en fait. C'est vraiment une question de. Une question de presse, en fait. C'est la presse italienne contre la presse. Et puis, surtout, quand le procès en appel a lieu. Le procès en appel a lieu, donc à peu près 18 mois après la première instance. Donc, ils sont condamnés à 24 et 26 ans de prison. Il y a tout ce délire que je viens de vous décrire, c'est-à-dire les Américains qui investissent vraiment la place. Et le juge commence par cette phrase en disant « La seule certitude qu'on a, c'est que Meredith Kercher a été tuée. »
D'accord.
Ce qui veut dire qu'on balaie...
On balaie le reste, quoi.
On balaie le reste.
L'enquête.
Donc, ça veut dire qu'on reprend tout à zéro. Évidemment, le principe d'une cour d'appel, c'est ça. Mais quand même, ça pose un postulat d'emblée. Et quand donc ils sont acquittés à la fin du procès en appel, il y a évidemment des larmes, des cris de joie à l'intérieur du tribunal. Les Américains sont heureux. À l'extérieur, vous avez une foule italienne.
J'allais vous dire, comment les Italiens, eux, les Italiens, monsieur, madame, qui habitent en Italie...
Alors, c'est pas forcément monsieur, madame qui est dans la rue, mais quand même, il y a cette colère de dire, mais les Italiens sont persuadés que les coupables, ce sont eux, parce qu'ils ont eu un faisceau de preuves qui ont été bombardés lors du premier procès, et donc pour eux, il n'y a aucun doute possible, parce que si ce n'est pas eux, c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est Rudy? Mais c'est pas Rudy, puisque la justice a dit que non, et que lui... En sortant de prison, parce que c'est une affaire, il est sorti de prison l'année dernière, il a dit que ce n'était pas lui, et il a laissé entendre qu'Amanda savait, puisqu'elle était très proche de la victime au moment où elle est morte. Donc vous voyez, il y a encore plein de choses. C'est jamais terminé, puisque encore l'année dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie et donné raison à Amanda Knox pour j'ai plus le chef d'inculpation en tête, mais en gros pour une procédure qui n'avait pas été réglementaire lors de la première instance. Il y a eu des, je vous mens pas, des dizaines de livres qui ont été écrits. Amanda Knox elle-même a écrit un livre qui lui a rapporté 4 millions de dollars.
Absolument.
Raffaele a écrit un livre. Des films ont été faits. Un film est sorti de l'année dernière, Stillwater, qui reprend l'histoire d'Amanda Knox. C'est pour vous dire le délire que ça a suscité dans l'opinion publique. Et en Italie, on n'a pas apprécié que on s'en prenne à sa justice, qu'on s'en prenne à sa police, et que les Américains débarquent avec leur gros sabot en disant « Nous, on sait, vous savez pas. » C'est ça qui a cristallisé, en fait, l'opinion publique contre Amanda Knox. C'est ce côté de dire « Vous, ça va, on vous connaît, les sous-hommes, là. » Et en plus, les Italiens n'aiment pas être traités comme ça. Ils ont ce complexe un peu, parfois,
d'infériorité
sur certains sujets,
oui,
qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est comme ça, c'est dans la nature. Et là, sur cet aspect-là des choses, ils n'ont pas du tout apprécié. Et c'est ce match USA-Italie qui a cristallisé les passions aussi.
You've been dreaming, you just put
on va écouter une archive ensemble. Durant près de 8 ans, donc la justice italienne s'acharne à voir en Amandanox la meurtrière de sa colocataire, Meredith Kercher, avec, après tout, les dénégations, les paradoxes que vous nous avez racontés, Eric. Ces assassins supposés à Amandanox, c'est Raffaele Cholicito, sont donc jugés une première fois, le 16 janvier 2009, et condamnés à 25 et 26 ans de prison. Toute la certitude du procureur Minini sur la culpabilité d'Amanda est résumée dans un scénario très précis qu'il imagine et qu'il raconte dans le documentaire de Brian McGinn et Rod Blackhurst.
Amanda était une fille très désinhibée. Elle ramenait des garçons chez elle. Ce que m'ont dit les amis de Meredith m'a convaincu qu'il n'y avait pas plus différente que Meredith et Amanda. Imaginez ce soir-là, Meredith qui voit arriver chez elle, à l'improviste, Amanda, d'accord, mais aussi Raphaël et Rudy. Elle a sûrement dû exprimer un jugement moral négatif envers Meredith, de façon explicite. Amanda a dû se sentir humiliée, blessée. Ah, tu me juges ma moralité comme ça, aussi sévèrement? Tu vas voir ce qui va t'arriver.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Eric Valmire, de toute cette enquête? Ça fait écho à ce que vous disiez, effectivement.
Beaucoup d'interprétations à partir de données qui n'étaient peut-être pas si fiables que ça, en fait. Quand on dit qu'elle était désinhibée,
oui,
qu'elle aimait...
Et quand on regarde,
sept garçons, elle est sortie avec sept garçons en six mois, puisqu'on sait tout, puisque tout est sur la table, son journal intime a été dévoilé, ses amis ont tout déballé, sept garçons en six mois. Bon, on n'est pas là pour faire un concours et déclarer à quel moment on est désinhibé, mais à 20 ans, sortir avec sept garçons en six mois, ça me paraît pas être... un acte de dépravé sexuel, comme ça a été dit. La question morale d'une dépravée sexuelle, bon, je veux dire, est-ce que ça doit entrer en ligne de compte dans son procès, déjà? Ça nourrit tous les fantasmes.
Parce que c'est pas un élément objectif, c'est pas une preuve matérielle.
Et puis même si on est une dépravée sexuelle, admettons qu'elle soit une dépravée sexuelle, est-ce que ça fait d'elle une meurtrière?
Ben oui.
Non, pas forcément. Ça raconte, encore une fois, les histoires d'interprétation sur l'histoire. Beaucoup d'Italiens sont convaincus que c'est un meurtre qui n'était pas prémédité, que c'est une sur fond de drogue, un truc à 3-4 sexuel qui a mal tourné.
Mal tourné, oui.
Bon, peut-être, mais sauf que les éléments ne l'ont pas prouvé puisqu'il n'y a pas de preuves, et que finalement toutes les preuves d'ADN du premier procès ont été éliminées en appel parce que la police scientifique a reconnu qu'il y avait des éléments de contamination. C'est-à-dire que l'arme du crime qui a été trouvée en première instance, est trouvée dans la cuisine de Raffaele, donc il n'est même pas retrouvé sur place. Là, ils vont trouver un ADN d'Amanda sur le manche et de Meredith, la victime, sur la lame. Sauf que après, on admet que si l'ADN d'Amanda sur le manche est sûr à 100%, celui de Meredith ne l'est pas et a pu être amené lors d'une contamination en labo après. Pareil pour la graffe, je parlais tout à l'heure, la graffe du soutien-gorge de Meredith. S'il y a un ADN de Raffaele, le problème c'est qu'il y a aussi trois autres ADN de garçons inconnus. Ça veut dire que là aussi la preuve n'existe pas. Et puis ensuite le couteau. Le couteau, on se rend compte que le couteau qui était au centre de l'affaire, ça peut pas être l'arme du crime. Car si c'est ce couteau-là qui avait tranché la gorge de Meredith, la blessure serait beaucoup plus visible et la gorge serait tranchée. Mmh. Or, c'est un petit couteau qui a tué. Et ça, on se rend compte quoi, 3 ans après? Donc, si vous voulez, il y a quand même des zones d'ombre dans l'enquête qui fait que ce que nous dit, en fait, cet extrait qu'on vient d'écouter, c'est qu'à partir de 2-3 éléments qui n'étaient pas forcément fiables, comme un socle un peu flottant, on a bâti un champ d'hypothèses qui ne reposait sur rien.
C'est ça. Pas sur ce qu'on appelle en justice une preuve matérielle, élément matériel. On va écouter une deuxième et dernière archive.
Ce qui ne fait pas d'Amanda, même si tous les faits le reconnaissent que la justice a décrété, forcément une innocente.
Absolument.
Ce qui veut dire que une grande partie de l'Italie, la croit encore coupable, et pire encore, la famille de Meredith la croit coupable.
On va écouter une deuxième et dernière archive qui remonte au 6 novembre 2007. Caso Chiuso, en français l'affaire est close, déclare Oreste Volturno, l'inspecteur chargé de l'affaire, lors d'une conférence de presse. Alors on est seulement 5 jours après le meurtre. Écoutez.
Nous sommes extrêmement tristes de la mort de cette jeune fille, mais la police de Pérouse est aussi fort satisfaite d'avoir trouvé des réponses qu'on ne pensait pas forcément trouver aussi vite. La presse nous a mis la pression et nous avions la responsabilité de trouver une réponse sûre et rapide. Je ne peux suffisamment remercier tous ceux qui nous ont fait la preuve de leur professionnalisme et de leur engagement moral.
C'est ce qui s'appelle crier victoire trop vite.
Mais il a fait son mea culpa en plus, le proc, plus tard, bien plus tard. Je pense qu'il était convaincu de faire son travail correctement. Ensuite, il y a le procureur, et puis il y a les fuites policières, il y a l'emballement de la presse, il y a tous les éléments en fait qui rappellent, comme je le disais, un peu
Grégory.
L'affaire Grégory, parce que finalement, on se dit que cette affaire-là, menée un peu plus sérieusement dans les premiers instants, elle pouvait être réglée très vite. Seulement, c'est parti dans tous les sens, avec des fautes de procédure inouïes. Pas d'avocat, par exemple, pour Amanda Knox. Ils sont interpellés, et les premières gardes à vue, c'est deux jours sans avocat.
Alors qu'on est dans un état de droit, quoi.
Voilà, on est dans un état de droit. Ouais. Donc ça, ce sont des erreurs inqualifiables. Donc forcément, ça porte tort ensuite à la vérité, finalement. Quand je vous dis tout à l'heure qu'on ne sait pas, il n'y a rien de plus terrible comme malaise de pas savoir. La justice a décidé que Raffaele et Amanda étaient innocents, donc contact, ils sont donc innocents, mais il y a ce soupçon de doute qui persiste encore dans l'opinion et dans les têtes.
Et on sait à quel point ça a des conséquences sur les familles.
Hein, ouais, exactement.
Éric Valmire, il me reste à vous remercier et vous féliciter pour l'état de votre mémoire. Ah, quand même, hein. Ce n'est tout dans tous les détails.
Ouais, c'est-à-dire que c'est des histoires comme ça, elles marquent un peu. Justement, quand vous êtes en plus.
Ouais.
Quand vous n'êtes pas dessus, c'est-à-dire quand vous ne travaillez pas dessus, que vous n'êtes pas à l'intérieur, c'est-à-dire que comme on l'a pas traité sur dans nos rédactions et sur nos chaînes, ça, vous avez une sorte de distance pour analyser ça, un peu à froid, un peu de loin, sans être trop dedans, à bien réfléchir. Alors, évidemment, on réfléchit tout le temps, c'est pas ce que je veux dire, mais à bien réfléchir sur tous les éléments qui arrivent, et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas plongé là-dedans, parce que rien ne me paraissait authentifié dans ce qui était sur la table. Et que c'est très compliqué de faire du journalisme dans ces conditions.
Merci, merci Éric Valmire. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Amanda Knox, premier épisode. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel.